Bonjour Régis et bonjour Raphaël. Et bonjour à notre stagiaire Gaspard. Voilà, oui. C'est le moment de retrouver pour la dignité cette émission pour les droits humains mensuelle, dont je suis ravie toujours de vous accueillir pour avoir les nouvelles d'Amnesty International.
Merci beaucoup Odile et bonjour à tous. Voilà, alors le 21 novembre, il y a eu un grand événement au lycée Pierre-Gilles de Gênes, puisque Antoinette Chahine est revenue et a inauguré un patio qui porte désormais son nom. Alors comment, voici l'histoire si vous voulez. L'année dernière, Antoinette Chahine est intervenue au lycée Pierre-Gilles de Gênes et elle a livré son témoignage contre la torture et la peine de mort. Et elle est bien placée pour le faire, puisqu'elle avait été torturée et condamnée à mort pour un crime dont elle était complètement innocente. La salle était remplie, et le proviseur a été tellement bouleversé par ce qu'il avait entendu, que spontanément, à la fin de l'intervention, il a proposé à Antoinette de nommer le patio qui se trouve au centre du lycée et qui était pas du tout entretenu. C'est un patio entouré de vitres. Et à l'intérieur, il y a un jardin, mais qui était en friche. Et donc, il a décidé de faire entretenir ce patio et qui porte le nom d'Antoinette Chahine. Et c'est donc ce que nous avons fait le 21 novembre dernier. Antoinette Chahine est revenue chez nous. Elle a fait une nouvelle intervention devant une salle pleine de lycéens de première et de professeurs qui ont tous été très touchés et beaucoup d'ailleurs nous ont dit qu'ils allaient rejoindre l'antenne jeune du lycée. Et ensuite, après l'intervention, on a inauguré officiellement le patio qui a été complètement rénové, qui est devenu un jardin très agréable, avec un rosier qui portait une rose Antoinette Chahine. Voilà. Et on avait fait réaliser un cartel qui est affiché sur la vitre de ce patio et qui permet aux lycéens, aux futurs lycéens, de savoir qui est Antoinette Chahine et pourquoi ce patio porte son nom. Alors je vais vous lire ce qu'on a écrit et ensuite on écoutera les interviews qu'Odile a réalisées de jeunes ayant assisté au témoignage d'Antoinette. Alors voilà ce qui est écrit donc sur le cartel qui est affiché au patio. Patio Antoinette Chahine. Antoinette Chahine, 22 ans, a été accusée à tort d'avoir commis un crime au Liban en 1994. Elle est arrêtée le 21 mars de la même année au motif que ce crime qu'elle n'a pas commis. Enfermée, torturée physiquement et psychologiquement, elle sera condamnée à mort 3 ans plus tard. Après 5 ans de détention abusive, elle est finalement innocentée et libérée le 24 juin 1999 grâce à la mobilisation d'organisations non gouvernementales, dont Amnesty International. Robert Badinter, ancien président du Conseil constitutionnel, garde des Sceaux et ministre de la Justice à l'origine de l'abolition de la peine de mort en France, disait d'elle qu'elle symbolisait le combat pour l'abolition universelle de la peine de mort. Antoinette Chahine n'est pas qu'un nom, elle est un cri de liberté, une lumière dans l'ombre de l'injustice. Elle est un symbole de courage et de justice. Sa voix s'est élevée au-delà des murs, pour la vérité, pour les droits humains, pour ceux qu'on oublie. Elle participe à tous les congrès mondiaux contre la peine de mort, depuis le premier d'entre eux qui s'est tenu le 25 juin 2001. Antoinette Chahine a plusieurs fois fait l'honneur de sa présence au lycée Pierre-Gilles de Gênes, invité par le groupe dinois d'Amnesty International et l'antenne jeune de l'établissement. Son témoignage contre la torture et la peine de mort est un vibrant appel aux jeunes à rejoindre les militants des droits humains. On écoute maintenant des réactions de quelques jeunes lycéens.
Je m'appelle Loane, je suis un lycéen au lycée Pierre de Gênes et j'ai eu la chance de pouvoir assister à une prise de parole et à une conférence d'Antoine Chahine.
Alors, est-ce que vous faites vous-même partie d'Amnesty International, du groupe jeune au lycée Pierre de Gênes ou non?
Alors non, je ne fais pas partie de l'antenne, mais il est vrai qu'après une telle prise de parole, je commence à envisager sérieusement de pouvoir y participer.
qu'est-ce que vous retiendrez de son témoignage ?
Bah, tout d'abord, à quel point c'était touchant, aussi le message important qu'elle veut passer et les mots surtout qu'elle nous a adressés sur le fait que pour les jeunes surtout, c'était important de s'engager et que ce qui lui avait permis de garder cet espoir en prison, c'était l'engagement. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai retenu et ce que je pense que la plupart d'entre nous ont retenu, c'est que l'engagement est sûrement la valeur la plus importante qu'elle a pu nous transmettre.
Alors, on se souvient de vous dans le concours d'éloquence du lycée Pierre-Gilles de Gênes. À cette époque-là, vous aviez fait sur le sujet de la liberté, c'est ça ?
C'est ça. Voilà. Et je pense que ça rejoint du coup ce qu'a pu nous transmettre Antoine Chaïn. La liberté, la transmission de la liberté, ça passe par l'engagement, ça passe par les messages qu'on peut porter, la jeunesse et même plus tard. Donc bien sûr, ce qu'elle a pu nous dire, ça rejoint ce sujet.
Donc vous avez envie de devenir militant par la suite ?
Bien sûr, c'est quand on entend des prises de parole comme ça, des expériences comme ça, qu'on se rend compte de l'horreur de ce qui peut se passer dans le monde. Et quand on se rend compte que nous, à notre petite échelle, on peut tous agir de manière assez importante, ça nous donne envie de nous engager et de peut-être aider les personnes dans le besoin, quel que soit le sujet.
Vous m'avez dit en quelle classe vous étiez ?
Première, générale.
Merci.
Merci.
J'ai trouvé cette intervention très intéressante et ça m'a fait prendre conscience de ce qui se passait ailleurs qu'à l'intérieur de nos frontières françaises et les actions qu'entreprend la France et toutes les organisations internationales pour tous les prisonniers politiques. Et je remercie vraiment Antoinette d'avoir parlé. Et ça m'a beaucoup émue, beaucoup touchée. Et je ne suis pas la seule à avoir été touchée et loin de là.
Vous avez découvert son histoire, son témoignage ?
Ah oui. Oui, je ne la connaissais pas du tout. On m'en avait parlé deux, trois mots. Mais là, je suis vraiment contente d'avoir pu écouter son témoignage.
C'est important que des gens se battent contre la peine de mort et pour les droits humains ?
Oui. Et surtout, dès notre âge, quand on est jeune, ça nous forme un peu à parler et nous encourage à prendre la voix pour les autres, pour ceux qui souffrent à la place de nous.
Merci beaucoup. Vous m'avez dit votre prénom ?
Mélissa.
Merci.
Merci.
Okay, Hernandez Yael, 21. Je suis très content qu'elle soit venue. C'est vraiment plaisir qu'un petit lycée de la région comme le nôtre puisse accueillir de grandes personnes comme elle. Et ça peut vraiment faire partager le message de partout. Et j'espère que son œuvre de voyager et d'aller dans tous les lycées de France pour partager son message continuera.
Est-ce que vous, ça vous a changé votre vision du monde, de la justice ou...
Alors moi, ça m'a appris beaucoup de choses par rapport à ce qui se passe réellement dans les pays occidentaux et orientaux. Donc je pense que ça a augmenté beaucoup ma culture générale, en effet, d'avoir cet événement au lycée.
Est-ce que ça vous donne envie de militer, de vous engager pour des actions ?
Alors peut-être l'année prochaine, en effet, que je pourrais m'inscrire à Amnesty, j'ai le temps qu'il faut, même si on a un emploi du temps chargé.
Vous êtes en première, terminale ?
En première.
Merci.
Merci à vous.
Alors je vous laisse vous présenter, vous êtes la représentante de l'antenne Amnesty au lycée Pierre-Gilles de Gênes.
Voilà, c'est ça, je m'appelle Gaïd Pelé, j'ai 17 ans, je suis en terminale et je suis donc la représentante de l'antenne jeune Amnesty International du lycée Pierre-Gilles de Gênes.
Depuis cette année ?
Depuis cette année, oui. J'étais déjà membre d'Amnesty l'année dernière et cette année j'ai repris l'antenne pour la relancer et pour créer une nouvelle équipe. Voilà.
Alors en quoi ça consiste exactement ?
Alors Amnesty International c'est une ONG, donc une organisation non gouvernementale qui défend les droits humains et nous en tant qu'antenne jeune, notre principale mission ça va être la sensibilisation. Donc on va faire des interventions dans les classes ou alors faire passer des pétitions, des messages. On a fait par exemple une action pour Octobre Rose et là on fait la campagne de changer leur histoire, donc pour signer des pétitions pour des gens qui sont emprisonnés à tort. Et on fait plein de petites actions militantes comme ça, écrire des lettres pour des prisonniers. On fait le maximum qu'on peut pour donner envie aux jeunes de s'engager et à leur permettre d'agir finalement à Digne-les-Bains, parce que c'est vrai que c'est une petite ville, on est un peu excentré.
Et vous sentez que des jeunes sont intéressés ?
Nous, à l'antenne, on est déjà, on a 20 membres à peu près, et il y en a plein qui nous rejoignent petit à petit. Et puis là, avec l'intervention d'Antoinette Chaïn, je pense que ça a donné envie à plein de jeunes de s'engager davantage. Donc oui, les jeunes ont envie de bouger, oui.
Par rapport aux signatures de pétitions, est-ce qu'il y a un âge légal ? Est-ce qu'on peut signer à n'importe quel âge ?
Alors nous, on fait signer qu'au lycée, donc je sais pas du tout comment ça se passe en dehors. En tout cas, nous au lycée, il y a pas de, on demande pas la classe, etc. Non, on demande pas du tout l'âge.
Il faut pas être majeur, quoi.
Non, on n'a pas besoin d'être majeur. Moi, je signe là, on signe des pétitions. Personne n'est majeur dans la salle à part les professeurs, par exemple. Tout le monde peut s'engager dès qu'il le veut, quand il le veut.
Et vous avez découvert ou vous connaissiez l'histoire d'Antoinette Chahine?
Oui, moi j'ai eu la chance déjà de la voir du coup l'année dernière, comme j'étais déjà membre de l'antenne, et j'ai continué à m'intéresser à elle. Là, j'ai acheté son livre et c'est un parcours tellement incroyable que je pense que c'est impossible que je m'y intéresse pas en fait.
Et bien sûr, vous militez, donc vous allez continuer cette action en dehors de l'antenne jeune, puisque ça c'est uniquement le temps du lycée.
Oui, voilà, en tout cas cette antenne jeune, si c'est l'antenne du Pierre-Gilles de Gênes, donc après quand je partirai en études supérieures, j'espère pouvoir m'engager de nouveau dans une autre antenne jeune, là où j'irai faire mes études.
Voilà, donc on a écouté ces ressentis de ces jeunes suite à l'intervention d'Antoinette. Et Gaïde, qui est la responsable donc de l'antenne jeune du lycée, a parlé de la campagne « Changer leur histoire ». C'est ce que nous allons faire ce mois-ci. Donc l'antenne jeune va le faire dans le lycée et le groupe de Digne va faire cette campagne à la médiathèque de Digne-les-Bains du 8 au 13 décembre. Les pétitions seront proposées à la signature dans le grand hall. Et le samedi 13 décembre, le groupe sera présent pour terminer de faire signer les pétitions et puis proposer à la vente des albums coédités par Amnesty et qui peuvent faire des cadeaux beaux et intelligents pour les enfants. Ce sont des albums, bien sûr, qui traitent des droits humains partout dans le monde. Et puis, on vendra aussi nos calendriers. Donc, venez nombreux. Du 8 au 13 décembre, signez les pétitions à la médiathèque et le samedi, venez nous rencontrer. Peut-être acheter des albums et le calendrier. Voilà. Alors cette action, là, changer leur histoire, elle date de 2001. Et elle se passe toujours autour du 10 décembre, qui est la journée internationale des droits de l'homme. Donc on vous appelle à rejoindre la plus grande campagne mondiale de signatures pour protéger et libérer des personnes en danger. Partout dans le monde, des personnes qui se battent pour la justice et défendent les libertés de toutes et tous sont traquées, harcelées et parfois tuées. D'autres sont discriminées pour leur origine, leur genre ou leur religion. Chaque année, la grande campagne d'Amnesty International permet de mettre en lumière une dizaine de situations et ça marche. Grâce au pouvoir de la signature, cette campagne mondiale a déjà permis d'améliorer concrètement la situation de plus d'une centaine de personnes. Une petite action peut faire une grande différence lorsque nous sommes nombreux et nombreuses à l'accomplir. Par exemple, l'an dernier, l'influenceuse Net Nahara, injustement emprisonnée pour avoir critiqué le pouvoir sur TikTok, était libérée avec 4 autres activistes angolais. Des défenseurs de la terre Wet'suwet'en, qui se battent pour protéger leur territoire au Canada, ont finalement évité la prison. Autre exemple, Alexandra Skotchilenko, accusée de diffuser de prétendues fausses informations sur l'armée russe, a été graciée et libérée en août 2024. Et elle nous a dit « Merci de m'avoir soutenue lorsque je me trouvais en prison, parce que c'est ce qui m'a permis de survivre et de croire au miracle. Si je suis ici, aujourd'hui, c'est grâce à votre soutien. Tout le soutien qui arrive de l'extérieur des murs de la prison aide à se convaincre que l'on n'a rien fait de répréhensible. » Ou encore, autre exemple, Magé Mathieu Ngong, qui a échappé à la peine de mort au Soudan du Sud. Il avait été condamné alors qu'il n'était encore qu'un enfant. « Merci de m'avoir sauvé la vie », a-t-il déclaré à sa sortie de prison. Ces victoires obtenues sont aussi les vôtres, et nous continuons tous les ans à faire cette campagne « Changer leur histoire ». On va maintenant écouter Raphaël, qui va vous présenter le premier cas qui concerne cette campagne.
En Tunisie, Sonia Damani est une avocate et une personnalité médiatique tunisienne. Elle a été arrêtée par les forces de sécurité le 11 mai 2024 au siège de l'Ordre national des avocats à Tunis. Depuis ce jour, elle est maintenue en détention arbitraire. Elle est poursuivie dans le cadre de 5 affaires judiciaires distinctes, qui découlent toutes de l'exercice pacifique de son droit à la liberté d'expression. Si elle est condamnée dans ces 5 affaires, elle encourt au total 20 ans de prison. Sonia Damani intervenait régulièrement dans des émissions de télévision et de radio où elle commentait divers sujets politiques, tels que les questions migratoires, le racisme et les mauvaises conditions de détention dans les prisons. À partir de la fin de l'année 2023, les autorités judiciaires ont commencé à engager des poursuites à son encontre en raison de certaines de ses prises de parole publiques. Le 6 juillet 2024, le tribunal de la première instance de Tunis l'a condamnée à une peine d'un an de prison, réduite à 8 mois en appel, pour avoir fait un commentaire ironique sur l'immigration en Tunisie lors d'une émission télévisée. Quelques mois plus tard, le 24 octobre 2024, ce même tribunal l'a condamnée à 2 ans d'emprisonnement supplémentaire dans le cadre d'une autre affaire, pour avoir mis en lumière des pratiques racistes et discriminatoires en Tunisie. Le 30 juin 2025, le même tribunal l'a condamné à 2 années supplémentaires d'emprisonnement pour des accusations fallacieuses de diffusion de fausses informations. 3 autres affaires pénales sont encore en cours d'instruction. Si elles aboutissent à des procès, Sonia Damani risque de se voir infliger des peines supplémentaires. Sonia Damani est actuellement détenue à la prison de Manouba, en Tunisie, dans des conditions contraires à l'interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle subit des fluctuations extrêmes de température, souvent glaciales pendant l'hiver, à cause d'une fenêtre cassée dans sa cellule. Les autorités pénitentiaires refusent de laisser sa famille lui apporter des vêtements chauds ou de la nourriture. D'après sa famille, Sonia Damani a perdu beaucoup de poids et a développé de graves problèmes de santé, notamment du diabète, des douleurs dorsales, un gonflement des jambes et de l'hypertension artérielle. Sonia Damani est également privée de certains biens de première nécessité, tels que des vêtements propres ainsi que des soins médicaux adaptés, y compris des médicaments. Elle est en outre soumise à des traitements humiliants de la part des gardiens et des gardiennes. Le 20 août 2024, avant une audience au tribunal, elle a été soumise à une fouille au corps humiliante et à la nudité forcée. Sonia partage sa cellule avec 4 autres détenus, y compris les toilettes, qui sont dépourvues d'intimité. Les conditions d'hygiène y sont très dégradées, l'accès à l'eau chaude est limité et la cellule est infestée de rats et d'insectes. Les poursuites intentées contre Sonia Damani s'inscrivent dans un contexte de renforcement de la répression de la liberté d'expression en Tunisie. Depuis la promulgation du décret-loi numéro 54, le 13 septembre 2022, les autorités s'en prennent de plus en plus à celles et ceux qui exercent leur droit à la liberté d'expression. Des dizaines de personnes, avocats, avocates, journalistes, blogueurs, blogueuses, militants, militantes, politiques, ont été convoqués pour des interrogatoires, poursuivis ou condamnés pour avoir tenu publiquement des propos perçus comme critiques à l'égard des autorités. Depuis 2022, plusieurs dizaines de personnes ont été inculpées au titre du décret-loi 2022 numéro 54, la plupart du temps à la suite de plaintes déposées par des représentants et représentantes du gouvernement. Le décret-loi 2022 numéro 54 est contraire au traité relatif aux droits humains, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel la Tunisie est partie. L'article 9 de la charte de l'article 19 garantissent le droit et la liberté d'expression. Or, les restrictions imposées à ce droit par le décret-loi numéro 54, basé sur des notions floues et excessivement larges telles que les fausses nouvelles ainsi que les autres dispositions répressives de la législation sur la cybercriminalité, ne respectent pas les critères de légalité, de nécessité et de proportionnalité. La demande et les demandes d'Amnesty International France. Libérer immédiatement sans condition Sonia Damani. Annuler ses condamnations et peines iniques. Abandonner toute investigation pénale infondée intentée à son encontre.
Voilà pour le premier cas. Donc, venez signer la pétition en sa faveur. Et puis, vous aurez aussi la pétition concernant un photojournaliste au Myanmar. Alors, Myanmar, c'est l'ex-Birmanie. Ce sont les militaires qui ont pris le pouvoir, qui ont débaptisé le pays. Voilà, et donc, on va intervenir dans cette opération Changer leur histoire pour un photojournaliste, Sezao Tek, qui documente depuis 2012 les graves violations des droits humains au Myanmar. En mai 2023, il se rend secrètement dans l'état d'Arakan pour couvrir les dégâts causés par le cyclone Mocha. Arrêté quelques jours plus tard, il est condamné en septembre par un tribunal militaire à 20 ans de prison et de travaux forcés. Les autorités l'accusent d'avoir semé la peur, diffusé de fausses informations et travaillé pour un média interdit. Depuis le coup d'état militaire en 2021, plus de 200 journalistes ont été emprisonnés par l'armée. Des médias indépendants sont interdits et des journalistes contraints à l'exil. Depuis 2 ans, Seyso subit passage à tabac violent et période de détention à l'isolement. Aucun journaliste ne devrait subir un tel sort pour avoir simplement exercé son travail. Monsieur le Président du Conseil administratif d'État, nous vous demandons instamment de libérer Seyso Tek et d'abandonner les charges à son encontre. Voilà la pétition qui sera donc disponible à la signature à la médiathèque de Dean. N'hésitez pas à venir la signer. On va maintenant écouter Patrick Bruel au Café des Délices.
Tes souvenirs se voilent, ça fait comme une éclipse, une nuit pleine d'étoiles sur le port de Tunis. Le vent de l'éventail de ton grand-père assis au Café des Délices. Tes souvenirs se voilent, tu vois passer le tram et la blancheur des voiles des femmes tenant un fils. Et l'odeur du jasmin qu'il tenait dans ses mains au Café des Délices. Yali, yali, bibi, yali, 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 yali. Tes souvenirs se voilent, tu la revois la fille, le baiser qui fait mal à Port-el-Kantaoui. Les premiers mots d'amour sur des chansons velours, Habibi, Habibi. Tes souvenirs se voilent, tu les aimais, ces filles, les noyaux d'abricots, pour toi, c'était des billes. Et les soirées de fête qu'on faisait dans nos têtes, aux plages d'Amamet. Yali, yali, Habibi, yali. Yali, yali, Habibi, yali, 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 yali, yali. À l'avant du bateau, et ce quai qui s'éloigne vers un monde nouveau. Une vie qui s'arrête pour un jour qui commence, c'est peut-être une chance. Yali, yali, tu n'oublieras pas. Yali, yali, ces parfums d'autrefois. Yali, yali, tu n'oublieras pas. Yali, yali. Même si tu t'en vas,
Yali, Yali, Habibi, Yali, 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 Yali,
changer leur histoire. Au Cambodge, Mother Nature Cambodia. Mother Nature Cambodia, MNC, fondé en 2013, est un groupe militant de premier plan qui lutte pour l'environnement et les droits humains au Cambodge. En combinant différents types de mobilisation communautaire et de sensibilisation du public, l'organisation a remporté des victoires majeures. L'arrêt d'un projet de barrage hydroélectrique dans la vallée d'Arang. L'interdiction des exploitations de sable côtier et la protection des communautés autochtones, des forêts tropicales, des mangroves et des espèces marines. Malgré ces succès, MNC est confronté à une répression sévère. Les militants et militantes sont fréquemment emprisonnés pour des accusations infondées. Les autorités qualifient le groupe d'illégal pour ne pas s'être enregistré en vertu de la loi restrictive cambodgienne sur les ONG. En juillet 2024, 6 militants et militantes ont été reconnus coupables de complot et d'autres chefs d'accusation et condamnés à des peines de prison allant de 6 à 8 ans. Ils et elles subissent de mauvaises conditions de détention, notamment un manque d'eau potable et un espace exigu. Avant l'annonce de la décision, Ratasun a fui le pays et a réussi à se réfugier dans un endroit sûr où elle peut poursuivre ses activités militantes et soutenir les autres membres en prison. Le 30 avril 2025, la Cour suprême du Cambodge a refusé d'accorder une liberté sous caution aux 5 défenseurs et défenseuses de l'environnement emprisonnés malgré une requête urgente déposée en raison de leur état de santé. Il s'agissait également de leur 300e jour en détention. Ces dernières années, les autorités cambodgiennes ont mené une campagne dévastatrice contre les critiques pacifiques, entraînant la fermeture de médias indépendants, la dissolution de partis politiques d'opposition et la répression des groupes de la société civile, en particulier ceux qui défendent l'état de droit et les droits humains. Malgré ces difficultés, MNC demeure une force vitale de la défense de l'environnement, bénéficiant d'une reconnaissance internationale, notamment grâce au prix suédois Right Livelihood 2023. Cependant, ses membres restent emprisonnés, incapables d'accepter le prix ou de poursuivre leur travail critique. Mother Nature Cambodia est très connue au Cambodge. Pour son travail militant, les militants militantes et leurs familles sont favorables à une exposition plus large dans les médias et auprès d'un public mondial. Les demandes d'Amnesty International France. Libérer immédiatement et sans condition les 5 activistes emprisonnés, à savoir Ratatun, Kuntea Long, Keora Xamei Fuon, Chanda Ravut Li et Langi Yim. Annuler toutes les condamnations prononcées contre les 6 militants de Mother Nature of Cambodia.
Voilà, alors cette année, changer leur histoire porte un accent plus particulier sur les défenseurs de l'environnement, comme vient de nous lire Raphaël, et vous allez voir que dans les 8 cas qu'on vous présente, il y en a plusieurs qui concernent justement des militants qui luttent contre le réchauffement climatique et pour l'environnement, et qui sont persécutés, voire exécutés, alors qu'ils essaient de sauver notre planète commune. Alors par exemple, le quatrième cas que nous vous présentons, c'est celui des guerreras pour la Amazonia, c'est-à-dire les guerrières pour l'Amazonie. C'est un groupe de jeunes défenseurs de l'environnement qui se battent aux côtés de l'Union des personnes affectées par les opérations de Texaco, ainsi que du collectif Eliminen los Mecheros, éliminer les torchères, rallumer la vie, dans le but d'éliminer le torchage de gaz. En plus de contribuer au changement climatique, cette pratique extrêmement polluante dégage des fumées toxiques et représente une catastrophe environnementale et sanitaire pour leur communauté, notamment en créant des zones sacrifiées. En 2021, une décision de justice historique a été rendue, exigeant du gouvernement équatorien qu'il mette fin à l'utilisation des torchères. Pourtant, elles brûlent encore. En outre, Amnesty International a vérifié qu'au moins 52 d'entre elles se trouvent à moins de 5 km des centres urbains, une distance susceptible de nuire gravement aux communautés locales et à l'environnement. Les jeunes défenseuses et défenseurs des guerreras pour l'Amazonia ont été stigmatisés et confrontés à une violente intimidation et des tentatives de muselement. Plutôt que d'enquêter sur les menaces dont elles font l'objet, les autorités leur ont fait savoir qu'elles ne bénéficieraient d'une protection qu'à condition de cesser leur activité militante. Nous allons demander au président de respecter la décision de justice exigeant l'élimination des torchères et de prendre des mesures pour protéger les défenseurs de l'environnement. Voilà une pétition qui sera donc présente à la médiathèque de Digne du 8 au 13 décembre. On va maintenant écouter une chanson que nous a proposée Raphaël.
Je propose une chanson d'Iliari, qui est une amie, une chanteuse compositrice équatorienne, équaterrestre comme elle se dit, qui est engagée dans la défense des cultures autochtones et dans les questions un peu difficiles et problématiques de l'extractivisme. La chanson s'appelle Cotacachi. Et c'est le nom d'un ancien volcan en Équateur qui fait partie de la cosmovision andine de la région d'Imbabura.
Mama yo paichani
Changer leur histoire, d'Amissoa au Madagascar. La région d'Androï, située dans le sud du Madagascar, a été frappée par plusieurs épisodes de sécheresse qui, amplifiés par le changement climatique, ont entraîné de graves famines. Parmi les milliers de personnes touchées figure d'Amissoa, un agro-pasteur, Androï, de 48 ans, qui a été contraint de fuir son village avec sa femme et leurs trois enfants. À l'instar de nombreuses autres personnes touchées, d'Amissoa a décidé en octobre 2020 de migrer vers la région de Boeni, située dans le nord-ouest du pays et à près de 1500 km d'Androï, où aucune terre de remplacement ni aucun soutien ne leur ont été fournis par le gouvernement. En mars 2023, dans le cadre d'un projet pilote de gouvernement, le gouvernement a ouvert un site de réinstallation pour les personnes déplacées dans la commune de Tassaramandrosso. D'Amissoa et sa famille ont été parmi les premiers à se voir attribuer une case sur ce site et les autorités l'ont désigné comme responsable de la zone, mais la situation ne s'est pas améliorée. Plusieurs organisations humanitaires aident à la réinstallation des personnes déplacées ayant dû fuir le Grand Sud en raison des sécheresses pour s'installer dans d'autres régions du pays. L'objectif principal de cette campagne est de convaincre le gouvernement malgache de s'engager publiquement à faciliter l'intervention de ces organisations et d'autres acteurs concernés. Le gouvernement doit veiller à ce que les personnes déplacées en raison des sécheresses bénéficient d'une aide humanitaire adéquate, notamment d'un accès à la nourriture, à l'eau, au logement, aux soins médicaux et autres services de santé, à l'hygiène, à l'éducation et à tous les autres services essentiels. Cette obligation est énoncée dans le principe directeur des Nations Unies relatif au déplacement des personnes à l'intérieur de leur propre pays, ainsi que dans la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées en Afrique. Les demandes d'Amnesty International France. Prendre de toute urgence des mesures concrètes pour remédier aux difficultés rencontrées par les personnes déplacées en raison des sécheresses, notamment la faim, le manque de logement et le manque d'accès aux soins de santé, tant sur le site de réinstallation géré par d'Amissoa que dans les autres lieux d'accueil à travers Madagascar. Solliciter activement le soutien des agences humanitaires et des autres acteurs concernés afin de répondre efficacement à ces défis.
Voilà, le sixième cas que nous vous présentons dans la campagne « Changer leur histoire » concerne un jeune au Nigeria. Il s'appelle Yahya Sharif Aminu. C'est un chanteur de 27 ans qui est détenu à la prison de Kano, dans l'état de Kano, qui se trouve au nord du Nigeria. Il risque d'être exécuté sous peu, depuis qu'une haute cour islamique l'a condamné à mort par pendaison, pour avoir diffusé via WhatsApp une chanson considérée comme blasphématoire. En février 2020, il compose une chanson accusée de contenir des paroles désobligeantes attribuées au prophète Mahomet. Pour cette raison, le musicien est arrêté, des membres de sa famille ayant fui leur domicile sont victimes de violences. Le 4 mars, la maison familiale du chanteur, située dans le quartier de Charifé, dans la zone du gouvernement local de Kano, est incendiée par des jeunes en colère qui protestent contre la chanson et demande son arrestation. Le 10 août, il comparaît devant une haute cour islamique siégeant à Kano. Quelques mois plus tard, il est inculpé et déclaré coupable de blasphème avant d'être incarcéré à la prison de Kano, où il se trouve encore actuellement. De sérieux doutes quant à l'équité du procès et à la formulation des charges qui pèsent contre lui et s'appuient sur ses messages WhatsApp poussent Yahya et son avocat à faire appel. Le 21 janvier 2021, la commission d'appel, présidée par le premier magistrat de l'État de Kano, ordonne la tenue d'un nouveau procès. Puis elle ordonne que l'affaire soit renvoyée devant la haute cour islamique, mais par un juge différent. Cette décision de faire rejuger Yahya lui donne une précieuse occasion d'être défendu par un avocat et de bénéficier d'un procès équitable. Et la pression internationale sera très utile. De sérieux doutes existent quant à l'équité du procès et à la formulation des charges retenues contre lui. Avant et pendant le procès, on ne lui a pas permis de recourir au service d'un avocat. Il a été autorisé à bénéficier d'une assistante juridique pour préparer un recours après que des avocats spécialisés dans la défense des droits humains et des militants l'ont enjoint à la Cour de respecter son droit d'être assisté par un avocat. La peine de mort reste en vigueur au Nigeria et continue d'être appliquée à travers le pays. Le 13 février 2025, le Parlement européen a condamné l'utilisation continue des lois sur le blasphème au Nigeria qui violent les obligations internationales en matière de droits humains et la constitution nigériane. Donc dans la pétition, nous demandons d'abandonner les charges qui pèsent sur Yahaya et de les libérer immédiatement et sans condition. On va maintenant écouter une chanson sur Madagascar qui s'appelle SOS Madagascar.
Listen, Africa is one. Madagascar, we are with you. Miaraga, Minareo, Chireria, Naou. Ils disent que tu es faible. Ils disent que tu es seul. Mais la lumière brûle encore sous les braises du sol. Ils ont volé la nuit. Ils ont fermé la voie. When one island suffers, the continent answers. We say no more chains, no more pain. So est Madagascar, lève-toi, on est ensemble, tu n'es pas seul dans ce combat. Madagascar, j'ai la victoire. De Lagos à Kinshasa, du Cap à Ouaga, toute l'Afrique chante.
Changeons leur histoire. Justice pour Elinor et les peuples samis, en lutte pour la défense de leurs terres en Norvège. Elinor Guttorm Utsi, représentante du peuple autochtone sami, travaille sans relâche pour protéger le mode de vie ancestral de sa communauté, éleveuse de rennes du nord de la Norvège. En 2023, des projets prévoyant l'installation de centaines d'éoliennes directement sur les pâturages d'été des rennes de Korgas ont été présentés, menaçant d'endommager les terres concernées. de perturber les itinéraires de transhumance des animaux et de détruire la culture de la communauté d'Elinor. Malgré une vive opposition publique et officielle de la communauté Sami de Korgas, les autorités se hâtent d'accorder des autorisations pour ces projets. Nous vous demandons de protéger les droits des communautés Sami qui pratiquent l'élevage de rennes, en mettant immédiatement un terme aux projets industriels éoliens qui menacent leurs terres et leur mode de vie. Ils ne peuvent pas avoir lieu sans le consentement libre préalable et éclairé des Sami.
Voilà, et puis le dernier cas que nous vous présenterons à la médiathèque de Digne-les-Bains, du 8 au 13 décembre, concerne à nouveau un défenseur de l'environnement qui s'appelle Juan López, et il a été assassiné au Honduras. Depuis 2015, Juan défendait sans relâche son environnement du nord du Honduras face aux projets miniers et énergétiques menaçant les rivières, les forêts et le parc national Carlos Escaleras Meireas. Les communautés locales craignent en effet que ces projets ne mettent gravement en péril les écosystèmes alentour et la qualité de l'eau. C'est dans ce contexte que Juan et d'autres militants et militantes ont fondé le comité municipal de défense des biens publics et communs de Tocoa afin de contester pacifiquement la légalité des dits projets. Mais leurs efforts se sont heurtés à des actes de harcèlement, de menaces et de criminalisation. Plusieurs membres du comité ont été arrêtés et emprisonnés. Certains ont même été tués. Le 14 septembre 2024, Juan venait de sortir de l'église quand il a été abattu dans sa voiture par un individu masqué. Le tueur présumé et deux potentiels complices ont été inculpés de meurtre et sont actuellement en détention provisoire. Cependant, les personnes qui ont commandité le meurtre de Juan n'ont pas été amenées à rendre des comptes. Monsieur le procureur, nous vous demandons de mener une enquête indépendante et impartiale sur l'homicide de Juan López dans les meilleurs délais, afin d'identifier tous les responsables de ce crime, y compris les commanditaires, et les traduire en justice. Voilà le texte de la pétition qui sera présentée du 8 au 13 décembre à la médiathèque de Digne. Venez nombreux signer ces pétitions et venez le samedi 13 décembre rencontrer le groupe d'Amnesty à la médiathèque de Digne-les-Bains. On écoute maintenant une chanson justement sur le peuple Sami de Marie Boine qui s'appelle Voué Voué Mou. Voilà, alors, on ne peut pas terminer cette émission sans vous dire un petit mot sur le Soudan. En effet, cette terrible guerre déclenchée en avril 2023 se poursuit. Elle a provoqué des dizaines de milliers de morts et le déplacement de 12 millions de personnes. Plus de 30 millions de personnes, soit les deux tiers de la population, nécessitent une aide humanitaire. C'est la plus grande crise humanitaire du monde, selon les Nations Unies, et on en parle en fait très très peu. Alors, vous pouvez aller sur le site amnesty.fr pour vous renseigner et pour avoir justement le témoignage de survivants, de Soudanais qui sont pris à partie dans ce conflit. Les parties au conflit sont armées par les pays tiers. Amnesty International a identifié sur le champ de bataille soudanais des armes en provenance de Chine, des Émirats Arabes Unis, de Russie, de Serbie, de Turquie et du Yémen. Ces armes sont mises entre les mains de combattants qui sont accusés de violation du droit international. Elles aggravent la crise humanitaire au Soudan. Les Émirats Arabes Unis apportent tout particulièrement leur soutien au FSR en leur fournissant des armes et des munitions. Nous avions enquêté et identifié du matériel de guerre français et chinois sur le champ de bataille au Soudan à travers l'intermédiaire des Émirats Arabes Unis. L'utilisation de ces armes sur tout le territoire soudanais démontre que l'embargo actuel appliqué aux armes dans la région du Darfour est inefficace. Un embargo étendu à l'ensemble du Soudan est primordial pour enrayer les violences envers les populations civiles. Voilà, donc je vous rappelle nos activités. Alors nous allons aller au lycée Alexandra d'Avinel. Nous allons intervenir dans deux fois, le jeudi 4 et le vendredi 12 décembre, dans des classes de seconde pour présenter Amnesty International et pour leur proposer de faire dans leur lycée l'action « Changer leur histoire », les 8 cas dont on vous a présenté, parce qu'en effet, une pétition est simplement la manifestation de son opinion et les jeunes ont le droit, grâce à la Convention des droits de l'enfant, ont le droit d'exprimer leur opinion et donc de signer des pétitions. Donc on va faire ça au lycée d'Avinel. Au lycée Pierre-Gilles de Gênes, « Changer leur histoire » va être faite par l'antenne jeune et le groupe de Dean viendra les aider le jeudi 11 décembre, viendra les aider à obtenir un maximum de signatures. Et puis je vous rappelle que le groupe tiendra un stand le samedi 13 décembre à la médiathèque de Digne, stand donc de pétition, vente d'albums pour enfants et de calendrier de 10h à 17h. Mais toutes les pétitions seront en place à la médiathèque entre le 8 et le 13 décembre pour les signer. Donc venez nombreux à la médiathèque et n'oubliez pas de signer nos pétitions. Et si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez aussi les signer en ligne sur le site amnesty.fr. Voilà, on termine cette émission avec la chanson de Souchon qui date maintenant. Mais vous voyez que le Soudan est un pays qui, depuis très longtemps, est en guerre. On écoute Souchon.
C'est déjà ça, c'est déjà ça. d'un monde.